Salut, c'est Camilla Jordana et je vais apparemment regarder 5 moments forts de ma carrière. Je ne sais pas quelle sauce je vais être mangée et je vous embarque avec moi.
En fait, il ne s'agira pas de 5 moments de sa vie, comme ici pour la chaîne Melty en février 2021, mais de 5 films de sa déjà belle filmographie. En effet, si l'on connaît Camilla Jordana grâce à la chanson depuis 16 ans maintenant, à 32 ans aujourd'hui, la jeune Toulonnaise d'origine algérienne a déjà une petite vingtaine de films à son actif. Et pas des moindres. Bonjour et bienvenue dans cette 13e visite de la saison 8 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans ou radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, donc, nous rendons une première visite à cette comédienne, auteure et chanteuse qui s'est installée dans notre vie culturelle avec un charme certain, une belle présence, des choses à dire et des jolis rôles.
J'en peux plus qu'on se moque de nous, qu'on nous regarde à tous les coins de rue.
Tu devrais appeler la NASA.
Ils veulent envoyer la première blédarde sur la Lune. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui t'attendent là-haut.
Tu te la pètes, quoi.
Le 12 mars dernier est sortie Reine-Mère sur nos écrans. Elle est venue le présenter dans C'est à vous sur France 5 le jour même avec son mari dans le film Sofiane Termani. Puis interview de la réalisatrice franco-tunisienne sur Leek TV et plus loin deux extraits de l'interview matinale sur Inter le 5 mars.
Je vivais mon identité à travers le regard des gens et ce qu'ils projetaient sur moi en fonction de celle-ci. Et du coup, je la subissais. Et c'est une chose qu'on partage avec Sofiane. Il y a eu un appel de l'Algérie comme ça il y a quelques années qui a monté en nous. Le fait de se connecter au pays de nos ancêtres, à la langue de nos ancêtres, ça a complètement déplacé ce prisme-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon rapport à cette identité, cette double culture...
C'est apaisé.
Oui, parce que du coup, la manière dont je la perçois, c'est plutôt... je me demande ce que moi j'en fais et comment je me présente au monde forte et riche de cette nourriture-là.
Alors comme ça, Monsieur Martel, on n'aime pas les Arabes.
Non, j'ai jamais dit que j'aimais pas les Arabes.
Il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas les Arabes.
Bonjour, je suis Manel Labidi, je suis franco-tunisienne et je suis la réalisatrice du film Reine-Mère qui sort au cinéma le 12 mars. Ça parle du racisme ordinaire, de la France des années 90, d'une famille algérienne, tunisienne, d'une maman qui a une énergie débordante, un père qui est extrêmement patient, une petite fille qui a des visions d'un certain Charles Martel.
Celui qui arrêta les rap en 732.
Quand on entend 732 Martel arrête les Arabes à Poitiers, surtout quand t'es le seul Arabe de la classe, tu le prends pour toi. Tu dis oh merde, on a encore déconné. Chacun en fait l'a ressenti différemment. On était un peu les méchants dans l'affaire. Et donc c'est dur de grandir avec une certaine confiance et puis de bâtir une belle estime de soi quand ton identité elle est malmenée par les médias, par le roman national, par les institutions et qu'il n'y a pas de contre-représentation. Cette démarche d'aller convoquer ce mythe de Martel, d'aller me renseigner, de découvrir qu'en fait l'histoire est plus compliquée, de me réapproprier cette histoire. Pour moi, c'est une réparation absolument incroyable.
J'ai aussi halluciné en me disant mais comment elle a réussi à raconter ma mère en tellement d'endroits. Donc j'avoue que pour l'inspiration, j'ai pas eu à chercher très loin. En revanche, moi, ma mère n'a pas subi le déclassement social. Elle a grandi dans un milieu extrêmement modeste.
Trop les belles.
Mais parce que ?
Parce que je suis ta fille.
C'est bien. Moi, je ne peux pas lui enlever ça. C'est grâce à Sofiane que je joue dans ce film, que j'ai eu la chance d'avoir ce rôle. C'est-à-dire qu'en effet, on était en préparation du film précédent dans lequel on jouait des frères et sœurs, Avant que les flammes ne s'éteignent de Mehdi Fikri. Je vous invite à jeter un œil pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le regarder. Il est disponible sur certaines plateformes. Et en prépa, en fait, on est devenus très amis très vite avec Sofiane. Ça a été assez évident tout de suite. Et donc, en se donnant des nouvelles, parce qu'avec nos vies un peu à gauche, à droite en permanence, on se tenait au courant de nos projets, de nos vies et tout ça. Et il me dit oui, alors voilà, j'ai un rôle pour un film, le film de Manel Labidi. Et moi, je venais de découvrir Un divan à Tunis, son premier long métrage. Je dis attends, Manel Labidi, Un divan à Tunis, Golchef Tefaradi. Il me dit oui. Je dis mais c'est génial que tu travailles avec cette réalisatrice, c'est trop bien, je suis trop contente pour toi, bravo. Puis il me raconte le pitch et tout ça. Je dis mais attends, mais il y a un rôle féminin dans cette histoire. Oui, mais il est pris? Non. Je dis alors, je t'explique. Je te demande de parler de moi, Manel. Tu m'envoies le scénario et puis moi, je vais travailler avec mon agente. Et puis ce qu'il y a, c'est que je suis censée jouer une mère de famille, une quarantenaire. Ouais. Et Manel avait en tête des images de moi, d'il y a 10 ans. Donc on s'amusait avec mon agente à envoyer des photos
de vous
vieillie, de moi vieillie, fatiguée, au bout du scotch. Et ça a marché. En tournée, et ben ça a fini par marcher. On s'est retrouvés en casting, Sofiane ayant donc déjà le rôle d'Amor. Et notre amitié et notre complicité, je pense, ont beaucoup aidé au casting.
Camélia Jordana aussi. Je dois vous avouer que j'étais très surprise quand je l'ai rencontrée parce que je ne pensais pas qu'elle pourrait jouer une mère de famille, sachant qu'elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle dégageait autant de maturité. Pour moi, il y a qu'elle qui pouvait faire ce rôle.
T'as passé trop de temps chez les cathos, toi. Je te rappelle que chez nous, t'aimes d'abord ta mère, ensuite ta mère, après ta mère, et seulement après t'aimes ton père.
Elle peut passer du rire aux larmes. Elle est drôle, émouvante, tragique. Elle peut être sombre. Quand elle a lu le scénario, elle a cru que c'était un film sur sa mère. Elle s'est vraiment reconnue. J'ai pas eu peur de salir l'archétype de la mère courage. Ça n'enlève en rien l'amour que j'ai pour ces femmes, mais j'ai l'impression presque de les réhumaniser en leur amenant ces défauts, ces aspérités, cette complexité. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'avoir sur tous mes personnages, féminins et masculins. Pareil pour Sofiane Zermani, c'est quelqu'un qui est né pour faire du cinéma. Moi, il me fait penser à Vittorio Gassman, à Marlon Brando, plus jeune. Tous les deux dégagent une espèce de présence, de charisme, et c'est un couple que j'aurais aimé avoir dans mes représentations plus jeunes.
T'es contente ?
Monsieur le meilleur.
Oh, monsieur le colonel, comment ça va ?
Ça va, comme...
Très bien. Comment vas-tu? Ça va?
Je sais pas.
Dis-le une fois. Allez.
Non mais non, je suis pas contente. J'ai vraiment eu peur, j'ai pas envie de partir d'ici.
T'es contente? Mesdames et messieurs, ma femme est contente.
S'il te plaît.
Pour la première fois de sa vie, pour la première fois.
Arrête de... Bon. T'as pas honte?
Tu montes de rien.
Arrête, justement c'est bien le problème. C'est vraiment un film social, c'est-à-dire qu'on a de la fantaisie, on a du drame, on a de la comédie, mais on va à la fois parler du déclassement social que Amel elle-même vit en passant de la Tunisie à la France. Il y a aussi la question de la classe au sein du couple, pas qu'au sein de la société, comme vous venez de l'évoquer. Et puis il y a aussi, de manière plus universelle, les questions sociales de l'éducation qu'on évoquait tout à l'heure, où pour elle, il est hors de question que ses filles soient dans une moins bonne école. Et cette question en effet elle-même, et c'est aussi en ça que je me suis reconnue en Amel, parce qu'on disait cette histoire de ce que les gens projettent sur vous et ce que vous, vous choisissez de faire de votre identité et de la manière que vous allez avoir de vous battre pour vous inscrire au sein de cette société-là. Et Amel, elle a cette force de vie-là, ce caractère, elle a un tempérament de feu. Et Manel, je trouve que c'est une chose très réussie qu'elle a réussi à faire aussi, parce que Amel, c'est un personnage très complexe. Dans les références, il y avait Penélope Cruz dans Bolbert, il y avait Anna Magnani dans Bellissima. Ce sont des femmes comme ça, au tempérament de feu, mais qui ont des failles de dingue. Là où Amel, justement, elle a mené une vie plutôt bourgeoise. D'ailleurs, à mort, son époux lui dit à un moment, mais t'es la fille d'un agriculteur qui se prend pour la reine d'Angleterre. Et en effet, elle se prend pour la reine d'Angleterre. C'est-à-dire qu'elle refuse de travailler le jour où elle finit par aller travailler, c'est en effet en tailleur, en talons, elle est toute belle, et d'ailleurs à tel point que ses collègues lui disent « Mais tu te prends pour qui? Tu te la pètes en fait, quoi
!» Je suis...
Trop les belles.
Oui, parce que...
Parce que je suis ta fille.
C'est bien.
Et c'est en 732 que Charles Martel arrêta les Arabes.
J'ai pas compris. Qui t'a poursuivi?
Mouna a cru qu'elle était poursuivie par Charles Martel.
Tu dois pas aller souvent en cours de PS, toi, hein? T'es parti avant moi, je suis arrivé avant toi.
Oui, complètement. Alors après, Manel, c'est vrai qu'elle parle d'un terme que j'aime, elle utilise un terme que j'aime énormément, qui est la biomythographie, qui est une pensée, qui est un concept, on va dire, issu de la pensée d'Audre Lorde, c'est-à-dire qu'elle s'inspire de sa propre enfance, seulement elle s'en sert comme une espèce de genèse pour derrière inventer de la fiction et ajouter beaucoup de fantaisie avec l'apparition de cet ennemi, ami imaginaire Charles Martel dans la vie de sa fille, Mouna. Donc,
L'humour, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon d'aborder la tragédie, une façon de prendre de la hauteur. C'est un outil comme ça qui permet en fait de créer des voies d'émancipation à des personnages qui sont certes discriminés ou précarisés, mais qu'on va essayer de rendre vivants, maîtres de leur destin. Tous ces personnages, et avec Amel en premier lieu, c'est des personnages qui disent non aux étiquettes, non aux boîtes, non aux raccourcis. Et Martel, en quelque sorte, c'est un petit peu la même logique. C'est que lui aussi, il a été réduit, ratatiné dans un mythe qui omet complètement la vérité historique. Et donc quelque part, il y a presque un équilibre entre la quête identitaire de la gamine et la quête identitaire de Charles Martel.
En 2017, dans Chercher la femme de Sou Abadi, Camélia Jordana joue déjà un rôle que d'aucuns vont caractériser de communautaire. Une jeune femme de la banlieue des Grandes Barres, chez Erazade, veut vivre libre alors que son frère rentre d'un séjour en Syrie. 10 mois qu'ils l'ont, pour ainsi dire, radicalisée. Le tout sur le ton d'une comédie.
Merci.
Elle vient de monter dans un bus, là. S'il est blindé de femmes, c'est haram, je peux pas.
Mais Fabrice...
Eh, c'est Farid, ok?
Oui, calme-toi, Fabrice.
Farid.
Sherazade, je veux te parler.
N'entre pas, elle est pas voilée.
Tu
fais sûrement une fixation sur elle parce que ça fait des mois que t'es frustrée sexuellement, mais ça va aller.
Sherazade, c'est décidé. Tu seras ma femme.
Amour rend-il heureux ? Mademoiselle Salah, vous défendrez la thèse du oui.
La même année, en 2017, Camélia Jordana incarne une étudiante en droit qui va nouer une relation singulière avec son professeur joué par Daniel Auteuil dans ce film d'Yvan Attal. D'où plusieurs et belles grandes tirades, dont celle-ci pour un concours d'éloquence typique des futurs avocats.
L'amour rend-il heureux ? L'amour ? Mais quel amour ? L'amour des autres ? L'amour de soi ? Et puis quel bonheur ? Le dicton populaire ne nous dit-il pas que l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche ? Et puis c'est quoi être amoureux ? Roland Barthes disait que l'on pouvait mesurer son amour à son attente. Oui, je suis amoureuse, puisque j'attends. L'autre, lui, le corsaire, l'aventurier, l'alpiniste, n'attend jamais. Il escalade le Kilimandjaro, il sillonne les mers du Sud. C'est insupportable. Alors, parfois, quand on est amoureux, on s'essaie à l'impudence. Je vais arriver en retard. Ça lui fera les pieds à mon compte navigateur des 50e hurlant. Mais hélas, à ce jeu, on perd toujours. On ne va jamais bien plus loin que le périph. Quoi qu'on fasse, on se retrouve désœuvré, exact, précis comme un vulgaire réveil matin. Et même, parfois pire, on arrive en avance. En avance. Mais quand on comprend qu'on est aimé en retour, et quand, devant le débarcadère, on se met à accepter cette attente aux profondeurs insondables, qu'on accepte le vertige de perdre pied dans les eaux superficielles du port, alors ces flots mornes et immobiles deviennent un océan d'euphorie merveilleuse. Un giron tendre et doux, au sein duquel on attend, confiant, invincible, le retour de l'être aimé. Et cette attente devient la plus exquise et la plus bienheureuse des conditions.
Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Camélia Jordana dans Le Brio.
J'aimerais juste dire... Je sais que normalement on ne fait pas à la famille tout ça. Juste merci à ma mère pour sa force qui a dû arrêter d'aller à l'école malgré son amour pour les mots. Et grâce à elle, du coup, je les ai racontés là-dedans. Et ça donne ça. Merci infiniment. Bonne soirée.
Ma mère est la deuxième d'une fratrie slash soratrie de 9 enfants. La famille de ma mère était très 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 pauvre. Ma mère a dû arrêter d'aller à l'école quand elle avait 14 ans, alors qu'elle était dans les premières de sa classe et qu'elle était folle amoureuse de l'école. Ma mère a été une grande alliée quand j'étais petite pour m'apprendre les mots, la grammaire, l'orthographe et tout ça. Donc ouais, je pense que c'est elle qui m'a vraiment transmis l'amour des mots. Et donc c'est grâce à elle que je sais qu'en plus les mots sont l'une des premières armes dans la vie. Donc ouais, c'est assez dingue dans un film qui s'appelle Le Brio, qui parle d'éloquence, décoré de ce magnifique titre d'espoir en plus. C'est beau.
C'est bon. Non, casse ta joie.
Martha, t'es sage ? Tiens, c'est pour la réunion de parents d'élèves.
Je pourrais jamais y être. Peut-être que ton babysitter peut y aller ?
Hein ? Ah non, non.
Monsieur ? C'est elle, ta maîtresse ?
C'est moi, je suis normalement une maîtresse.
Bonjour, bonjour. Vous êtes monsieur Canova, j'imagine ?
Marguet, Vincent Marguet.
Je porte le nom de ma mère.
D'accord.
J'y vais, papa.
Bienvenue.
Donc là, bonjour, je suis son père.
T'as jamais dit tes parents qu'il fallait pas mentir ?
C'est un petit mensonge.
Parents d'élèves, film de Noémie Saglio, sorti en 2020. Allez, extrait du pitch pour Canal+ et bande-annonce.
C'est un film dans lequel on suit une bande de parents d'élèves, ce qui est un endroit du monde que je ne connaissais pas, à savoir une espèce de collectif de parents d'élèves qui se retrouvent pour discutailler tous ensemble, très concernés, de l'année scolaire qui va se dérouler et de comment accompagner au mieux leurs enfants pendant cette année-là.
Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous avez des questions ?
Oui. Non.
Je peux aller faire pipi. Est-ce que tu peux attendre la... Pardon.
65 divisé par 7.
Franchement, ça ne servira jamais. Hein.
Hop, yes. Un rendez-vous individuel avec la maîtresse ?
Oui, c'est pour rencontrer les parents et parler de moi.
C'est en tête à tête, ça ?
2,
9, 42. C'est trop bizarre de vous voir dans la vraie vie.
Vous êtes très normal, vous êtes limite cool.
Allez, j'adore ton père.
Bonne journée.
Vous êtes un super papa.
À
Alors, elle est comment cette maîtresse?
Canon. Elle a l'air compétente, quoi.
Encore une fois, mon parcours fait que j'ai la chance de me sentir assez libre dans mes choix de vie et de mettre ma carrière d'artiste vraiment au centre de ma vie. Et je pense que quand on fait ce genre de choix, où on n'est pas résigné, on a la chance d'être un petit peu plus épanoui dans la vie. Alors forcément, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. Je pense que les concessions se font plus à cet endroit-là. Je pense que dans un couple, on est obligé de faire des concessions si on a envie que l'histoire... et une petite vie, un genre de vie.
En 2020, toujours, mais à la rentrée de septembre, la matinale Léa Salamé, cette fois pour la promo du très beau film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, également en interview pour le magazine Première et TV5 Monde. Une sorte de marivaudage où s'animent des bribes de Claude Sautet, Woody Allen, Alain Resnais, Éric Rohmer, le tout en plus moderne et soi-disant aussi littéraire. Quoique. En tout cas, Emmanuel Mouret est...
l'un des quelques auteurs et réalisateurs français pour lesquels le français est une chose à laquelle il s'accroche férocement. Et c'est Yvan Attal d'ailleurs qui m'avait appris à l'époque, il n'y a pas encore si longtemps, le fait qu'un acteur ou une actrice devait de faire cet effort que d'aller vers le texte. Et je suis ravie d'avoir reçu ce conseil avant de travailler avec Emmanuel Mouret, parce qu'en effet, Emmanuel, c'est quand même, quand on voit ses films, des univers très singuliers, assez originaux et qui n'existent que dans ses films à lui.
J'ai pas le sentiment que ça soit une langue qui soit si loin de celle que l'on pratique.
Elle est droite comme ça simplement parce qu'elle y croit et que son cœur est fait comme ça. Et ça m'a beaucoup touché dis-moi, je sens que
non,
tu veux intervenir.
Non, mais parce que pour aller dans ton sens, mais aussi dans la question, souvent on pose la question aux comédiens des personnages. Alors que les comédiens, avant tout, ils interprètent une situation. Et je me disais que peut-être que ce qui t'intéressait, c'était aussi la situation. Parce que quand... je ne sais pas si je dis une bêtise. C'est quand on lit un scénario dans une histoire, c'est un personnage qui traverse une situation.
Oui. Et ce qui est amusant,
c'est de jouer cette situation avec ses surprises, ses rebondissements, ses difficultés.
Et
quand on résume un personnage, on résume quelque chose, alors que ce qui est intéressant à jouer, c'est toute une succession de choses contradictoires. Et non pas une définition psychologique d'un personnage.
Mais dans la vie, je peux être pas si loin de Daphné, dans la vie privée, dans la sphère intime. Et du coup, c'était un travail de recherche, quoi. Je suis assez ravie d'avoir eu la chance d'interpréter Daphné. Je me sens très chanceuse qu'Emmanuel Mouret m'ait permis de présenter cette couleur-là.
Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça.
Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues.
Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié.
J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée.
Non, sinon j'aurais pas couché avec toi.
Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors?
Parce que t'étais mariée. Pensant que justement t'allais pas vouloir recommencer.
C'est ça qui est extraordinaire avec le cinéma, c'est que j'ai beau être aux antipodes de cette femme-là, je l'incarne et j'ai, comme Emmanuel, beaucoup de tendresse pour elle et j'essaie de la raconter dans justement tous ses travers. Beaucoup de ces personnages ont finalement des certitudes parce qu'ils passent quand même la majorité du film à parler d'amour entre eux, de leur position, de leurs échanges, de leurs pensées, de leur vécu, de leurs fantasmes. Et à chaque fois qu'ils sont convaincus d'une chose, la réalité les rattrape et leur montre qu'ils se trompent complètement.
Ouais. Et comme tu dis, c'est le fait qu'ils se racontent, qu'ils tombent amoureux et ils se racontent justement parce qu'ils ont le sentiment tous les deux d'être sur une zone de non-danger total, parce que le personnage de Nils a le cœur brisé, il sort d'une histoire horrible, elle est enceinte de l'homme qu'elle aime, et donc a priori, c'est un non-sujet, quoi. Et je sais pas si vous, ça vous arrivait, ouais. Mais moi, ça m'est déjà vachement arrivé, en fait.
Ouais.
Enfin, vraiment à plusieurs reprises, d'être dans un truc où, bon, bah, ça va, on est tranquille, c'est un non-sujet, t'as ta vie, j'ai la mienne, du coup, on échange, et en fait, c'est justement parce qu'on y va... on saute à pieds joints et qu'on se raconte tout dans les moindres détails que bah, du coup on est complètement à nu et du coup on peut beaucoup plus tomber amoureux, quoi.
Ainsi va bientôt se clore cette 13e visite de la saison 8 du Panthéon décousu sur Radio Alpa. Pour réécouter librement chaque visite, rendez-vous sur l'antenne dans la semaine et très bientôt sur radioalpa.com et toutes les bonnes plateformes numériques. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans une chanson coécrite avec le cinéaste. Ce qui nous lie, le film de Cédric Clapiche est avec François Civil, Pio Marmaille et Anna Girardot. Il se déroule dans le milieu de la vigne et des vignerons. et il est aussi sorti en 2017, l'année du Brio. Juste avant, un dernier son matinalier. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, n'oubliez pas qu'en buvant un peu de vin, toujours avec modération, vous récolterez aussi un peu du meilleur de vos racines.
Je pense que la manière que j'ai de me percevoir a changé et de fait, elle change ma manière de voir le monde. Je crois que mon identité, je pense que c'est une chose que j'ai longtemps... perçue comme une chose que je subissais parce que je la voyais en fonction de ce que les gens projetaient sur moi par rapport à elle. Et avec le temps, en grandissant, en vieillissant un petit peu, en me documentant, en me nourrissant, j'ai le sentiment de faire de cette identité, plutôt de, je dirais, de me poser la question de ce que moi j'ai envie d'en faire et de comment j'embrasse la richesse de cette identité plurielle. Et du coup, la question, c'est plutôt comment est-ce que moi je me présente au monde pleine de cette richesse et de toute cette nourriture-là.
Je passe, quoi mon talent, mon école. demain. Mon chez-moi est ailleurs, mon chez-moi est si loin. En attendant, je passe. En attendant, je passe. En attendant, je passe.
Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre ?